Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Ainsi soit-il.
Venez Seigneur et ne tardez plus, pardonnez les crimes d'Israël, votre peuple. Mes très chers frères, c'est aujourd'hui le quatrième dimanche de l'Avent. Encore quelques jours et le Messie tant désiré paraîtra. À la fin de l'Avent, nous constatons que l'Église dit adieu, nous fait dire adieu dans l'oraison, à peu près les mêmes paroles par lesquelles elle a commencé à s'adresser à lui au début de l'Avent. Excita, Domine, etc. Ce sont les paroles de la première et deuxième, et de l'oraison de la première et du premier et deuxième dimanche de l'Avent. Mais dans cette oraison, il y a une énigme, ou plutôt cette oraison est formulée d'une façon énigmatique, quelque peu énigmatique, puisque il est dit, réveillez votre puissance, Seigneur, et venez, employez votre grande force à nous secourir pour qu'une indulgente piété, pitié vienne hâter par votre grâce ce qu'arrêtent nos péchés. Il y a un quod ici, un quelque chose, un ce que, qui n'est pas mentionné explicitement dans l'oraison. Et c'est ce que, avec l'aide du Saint-Esprit, nous allons essayer de comprendre aujourd'hui, mes très chers frères. Nous savons que, comme dit l'oraison, nos péchés font obstacle, prépédiunt, à quelque chose. Et seul le déploiement de la puissance de Dieu peut lever cet obstacle. De quoi s'agit-il? Alors, tout d'abord, nous verrons les raisons de la venue du Messie. Et nous parlerons de la monstruosité exponentielle de l'homme déchu. Ensuite, en deuxième lieu, nous nous attacherons à voir plus en profondeur l'oraison. Et nous verrons pourquoi, nous poserons la question, pourquoi Dieu paraît-il lointain? Et nous essaierons de comprendre le sens de la prière Veni, que nous avons déjà évoquée ces dimanches précédents, mais nous continuerons à explorer le sens de la prière Veni, venez. Et enfin, nous terminerons en voyant encore une fois la nécessité de la grâce efficace, et nous nous poserons la question, en quoi consiste ce quod, ce quelque chose, et comment nos péchés le retardent-ils? Et j'espère que nous aurons répondu à notre question d'ici la fin de ce sermon avec l'aide du Seigneur. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
Les premiers mots de ce sermon que vous avez entendu sont tirés du verset de l'Alléluia. Venez Seigneur et ne tardez plus, pardonnez les crimes d'Israël, votre peuple. La venue du Messie, mes très chers frères, est à la fois un acte de Dieu entièrement gratuit et une nécessité absolue pour la nature humaine. Comme vous le savez, après la chute de nos premiers parents, Dieu n'avait pas d'obligation de nous racheter. Il nous a donné, lorsqu'il a créé l'homme, il lui a donné toutes les grâces qui vont de pair avec l'état d'innocence, et il n'aurait pas pu créer un homme dépourvu d'une certaine grâce, puisque, comme disent les théologiens, cela aurait été indigne de sa bonté, aurait été indigne de l'excellence et de son excellence et de sa perfection, puisque on ne peut pas imaginer comment Dieu aurait pu former de la terre un homme à son image sans le doter des grâces qui vont de pair avec cette image, avec cette ressemblance. L'homme est le sujet des grâces gratuites de Dieu, bien sûr, mais Dieu ne donne pas sa grâce d'une façon absurde. Mais il se trouve que l'homme a péché. Donc, quoi qu'il en soit, nous avons perdu les grâces que Dieu nous avait données au commencement. Nous en avons fait plus précisément mauvais usage. Ce n'est pas qu'on nous les a volés, mais au lieu de les utiliser pour triompher de la tentation du démon, eh bien, l'homme a plutôt mis de côté ses grâces et a plutôt désiré, eh bien, explorer les paroles de Satan, à son détriment, bien entendu, comme nous le savons. Donc Dieu n'avait pas d'obligation de nous racheter après la chute. Il aurait pu, nous dit un auteur, il aurait pu nous abandonner à notre sort comme les anges rebelles. Certains anges se sont rebellés contre Dieu, ils ont chuté, et ils sont depuis ce moment-là en enfer et dans un état terrible, puisque c'est un état où ils sont fixés dans leur état de révolte et donc de réprobation. L'homme a chuté, Mais Dieu lui a presque immédiatement promis un rédempteur. C'est ce qu'on appelle le protévangile dans le troisième chapitre de la Genèse, où il est dit, notre Seigneur dit que eh bien, la descendance de la femme écraserait la tête du serpent. Notre Seigneur aurait pu ne pas nous pourvoir un sauveur, mais il l'a fait. Pourquoi? Eh bien, c'est parce que son infinie miséricorde, et sa miséricorde est infinie, et que les anges sont les serviteurs de Dieu, mais comme nous l'avons dit, l'homme est fait à son image. L'homme ne s'appartient pas. Vous vous souvenez, nous avons souvent pris cet exemple du blason du roi tombé par terre dans la boue, que le roi aperçoit. À strictement parler, un blason tombé dans la boue a probablement sa peinture qui s'est détériorée, probablement qu'il ne vaut plus rien. Mais sous un certain rapport, il a un lien avec le roi. Et le roi, quoi qu'il ne puisse plus l'utiliser pour indiquer les armes de sa famille, néanmoins il va le faire ramasser de la boue, il va le faire ranger quelque part, parce que ce blason signifie la dignité du roi. L'homme fait à l'image de Dieu ne s'appartient pas, mes très chers frères. C'est donc pour l'amour de lui-même que Dieu a voulu faire miséricorde à l'homme. Lui-même, c'est-à-dire son Verbe divin, son Fils. Lorsque Dieu s'aime lui-même, qu'il se connaît lui-même, il engendre son Fils, et son Fils est dans un éternel mouvement de retour vers son Père, si tant est que cette expression a un sens dans l'éternité, de telle sorte que lorsque Dieu aime une créature, ce ne peut être que dans le miroir parfait et sans tache de son Fils, dans lequel Dieu le Père se contemple lui-même. Donc, Dieu a décidé de faire miséricorde à l'homme, non pas pour l'amour de l'homme en tant que tel, mais pour l'image de Dieu à laquelle l'homme a été fait. Et l'image de Dieu, c'est le Fils éternel de Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, la venue du Messie est une pure gratuité de Dieu qui aurait pu ne pas nous envoyer un Rédempteur et qui pourtant l'a fait pour l'amour de lui-même. Il y a donc quelque chose de purement gratuit par rapport à l'homme. Ce n'est pas dans l'homme que Dieu a trouvé un motif de lui envoyer un Rédempteur, c'est en raison de l'image de Dieu en fonction de laquelle l'homme est fait. La chute n'a pas effacé l'image de Dieu, mais comme il arrive souvent, lorsqu'une chose excellente est faite, sa corruption produit quelque chose de monstrueux. Vous voyez, lorsque une bicoque est construite, et puis que rapidement après elle tombe en ruine, elle excite plutôt le mépris. On dit, regardez, comme on se demande, l'architecte, qu'est-ce qu'il a fait, cette maison, cette bicoque est complètement détruite, c'est vraiment tout cet argent perdu, tous ces matériaux employés, qui ont pour fin une sorte de ruine qui est finalement méprisable, puisqu'on s'aperçoit que cette maison a été mal faite. Donc, lorsqu'on voit une bicoque en ruine, on se dit « cette chose était vraiment mal faite ». Mais lorsqu'on voit un château en ruine, lorsqu'on voit une église en ruine, lorsqu'on voit un bâtiment magnifique en ruine, immanquablement, il y a un certain sentiment d'admiration avec un certain sentiment de tristesse. Lorsqu'on voit un très beau château en ruine, eh bien, on est triste parce que c'est une époque qui est passée. On est triste parce que ce bâtiment qui a été fait selon les règles de l'art par des gens très habiles a été vaincu en quelque sorte par le temps ou par les révolutions, que sais-je, et il s'en dégage une sorte de tristesse. Vous voyez, on ne méprise pas un château en ruine, on ne méprise pas une abbaye dont on ne voit plus que quelques ruines, on est triste parce qu'il y a quelque chose de grand, quelque chose de beau qui est tombé. Voyez, donc, lorsque l'on regarde l'homme, du point de vue de Dieu, du point de vue des anges, si vous voulez, de ceux qui aiment Dieu, lorsqu'on regarde l'homme, on est saisi d'une certaine tristesse parce qu'on voit quelque chose qui a été grand, qui désormais est tombé, et qui, alors là, on dépasse simplement la simple comparaison avec les ruines de quelque chose de grand, et qui est devenu en quelque sorte abject, selon ce proverbe vulgaire qui dit que la corruption commence par la tête, ou que la corruption du meilleur est la pire. Lorsqu'on regarde l'homme, qu'est-ce que l'on voit ? On voit quelque chose, on voit une créature faite à l'image de Dieu, on voit quelque chose de grand. Mais quand on le regarde mieux, on voit quelque chose d'abject. Et cette abjection ne vient pas du fait qu'il a été mal fait au début, comme si Dieu avait mal composé cette créature qui s'était corrompue par la suite ou rapidement, un petit peu comme, je sais pas, comme un outil, une machine qui est mal faite, très rapidement tombe en panne. Non, c'est une chose merveilleuse que l'homme, mais c'est une chose qui est d'autant plus hideuse qu'elle a été merveilleuse et qu'elle est dans le fond merveilleuse. Lorsqu'on regarde un château en ruine, on voit les vestiges d'une puissance temporelle qui a été déchue. Et lorsqu'on regarde donc ce château en ruine, d'une certaine manière, on se souvient de la puissance temporelle qui l'habitait, de ce château exerçait son pouvoir, et d'une certaine manière, on a une certaine crainte et une certaine admiration en se disant, il fut un temps où des hommes puissants régnaient à partir de tels bâtiments. Lorsqu'on regarde l'homme, on se dit, il fut un temps où l'homme a été quelque chose de magnifique, et c'était le roi de la création, à strictement parler, puisqu'il était le vicaire, le lieutenant de Dieu sur terre. Et cette chose qui n'est pas simplement une ruine, mais qui est une ruine vivante, est devenue le tyran de la création, est devenue une chose qui est ignoble, dans le sens où faite entièrement pour Dieu, pour représenter Dieu, pour être le représentant de Dieu, elle s'aime elle-même et s'obéit à elle-même, de telle sorte qu'elle devient quelque chose de monstrueux, au moins aux yeux des anges. La chute de l'homme a rendu la venue du Messie absolument nécessaire pour la nature humaine. Non pas que la chute de l'homme ait contraint Dieu de lui envoyer le Messie. Comme nous l'avons dit, l'envoi du Messie est purement gratuit de la part de Dieu. Dieu ne trouve qu'en lui-même les raisons d'envoyer son Fils. Mais il se trouve que ce n'est pas parce que cette grâce est gratuite de la part de Dieu que l'homme n'en a pas absolument besoin. Et c'est là où l'homme doit se considérer comme étant totalement à la merci de Dieu. Si Dieu avait voulu ne pas lui envoyer le Messie, l'homme serait resté dans un état d'abjection. Et cet état d'abjection n'est pas compatible avec sa dignité. L'homme est le résumé de la création, l'homme est le chef-d'œuvre du Créateur, l'homme est le représentant de Dieu sur terre, et si l'on peut dire parmi toutes les créatures, l'homme est celle qui a le plus de ressemblance avec Dieu, de telle sorte que l'on peut dire que s'il y a Dieu qui est au ciel, Dieu est sur terre par l'homme. Mais l'homme en état de grâce, l'homme en état d'innocence plus précisément. L'homme en état d'innocence, l'homme déchu, est quelque chose qui n'a pas d'équivalent. On aimerait dire, l'homme déchu n'est plus le lieutenant de Dieu, il est le lieutenant du diable. Mais ce n'est pas tout à fait vrai. Et c'est même loin d'être vrai. Car, comme vous le savez, mes très chers frères, l'homme déchu est par un certain côté bien plus hideux et bien plus nocif que le diable. L'homme déchu n'est pas simplement un homme purement naturel. C'est un homme, c'est une créature à laquelle manque la capacité, la puissance plus précisément, d'être enfant de Dieu, la puissance de réaliser sa nature propre. Et quelle est la raison d'être de l'homme ? C'est d'être pour Dieu, c'est de rendre gloire à Dieu dans chacune de ses actions, chacune de ses aspirations, chacun des mouvements de son âme. Donc vous voyez, la venue du Messie est une nécessité pour l'homme, même si de la part de Dieu, elle est une pure gratuité. La chute a rendu l'homme si difforme qu'il est dans un véritable état d'anormalité. Ne croyez pas, mes très chers frères, ceux qui vous disent que l'homme, après la chute, n'était plus simplement qu'un homme qui se retrouvait purement humain. L'homme n'est pas purement humain. L'homme n'est pas purement naturel. L'homme est naturel dans le sens où il est une créature de Dieu et que Dieu seul est incréé, Mais l'homme est fait à l'image de Dieu. Il y a quelque chose en l'homme d'inaliénablement divin. C'est-à-dire, non pas divin comme si c'était un divin détaché de Dieu, mais c'est quelque chose qui appartient à, c'est quelque chose qui appartient à Dieu. Si j'osais une comparaison vraiment ridicule, mais enfin une comparaison qui n'est pas sans une certaine opportunité, vous savez tous que nous avons des compteurs dans nos maisons, si nous avons l'électricité. Sur ces compteurs, qu'est-ce qu'il y a écrit ? Il y a écrit « propriété inaliénable de l'EDF » ou je ne sais pas comment ça s'appelle aujourd'hui. Bon. Donc, il se trouve que même si c'est un compteur qui ne fonctionne plus, même si c'est un compteur qui est tombé en panne, même si c'est un compteur qui a été remplacé par un autre compteur, il se trouve que d'une façon inaliénable, cette chose qui ne sert strictement plus à rien, appartient inaliénablement à l'organisme qui est venu le placer chez vous. Vous ne pouvez pas l'enlever et en faire ce que vous voulez, parce que, au moins théoriquement, on peut toujours vous dire, attendez, cette chose appartient à la compagnie qui l'a placée chez vous, il faut la lui restituer. Tout le monde sait cela. Eh bien, pour l'homme, c'est la même chose. L'homme a beau faire ce qu'il veut avec lui-même, l'homme a beau suivre sa volonté propre, l'homme a beau abuser de tout ce qui reste de grand et de puissant en lui, nonobstant la chute, l'homme appartient inaliénablement à Dieu. Donc, quelque abject que soit sa condition, quelque monstrueuse que soit son état, il appartient inaliénablement à Dieu. C'est pour cela que tout homme venant dans ce monde est un sujet de Dieu et que Dieu règne sur lui, qu'il le sache ou non. Nous y reviendrons dans un moment. Personne ne peut dire, moi, Dieu ne m'intéresse pas et Dieu n'a rien à voir avec moi parce que je n'ai aucun intérêt pour la religion. Vous n'avez peut-être aucun intérêt pour la religion, c'est un fait. Mais c'est un fait subjectif. C'est-à-dire que quelqu'un pourrait très bien dire de ce compteur qui ne fonctionne plus, je vais en faire, je ne sais pas, un presse-papier, une machine à café, que sais-je, je dis n'importe quoi. Néanmoins, il se trouve que, qu'on le veuille ou non, ce compteur appartient à la compagnie d'électricité. Eh bien, l'homme sur Terre peut faire absolument ce qu'il veut avec lui-même, avec son corps, avec son esprit, avec son âme, il n'en reste pas moins qu'il appartient inaliénablement à Dieu. Et c'est pour cela que dans le fond de la nature humaine, il y a un cri qui est en quelque sorte presque à la fois naturel et surnaturel, qui est un cri vers Dieu pour la venue du Messie. Envoyez-moi celui qui me délivrera de moi-même. Vous voyez, lorsque un enfant s'ennuie, un enfant sans Dieu, un enfant élevé comme un païen, s'ennuie et qu'il demande à ses parents quelque chose qui pourrait le faire sortir de son ennui, eh bien, il y a là un très lointain et très affaibli, mais très certain écho de la prière même de la nature humaine, « Seigneur, envoyez-moi le Messie, délivre-moi de moi-même. Je ne sais que faire avec moi-même. » Vous voyez, et ce n'est pas de ma propre autorité que je dis cela, c'est on trouve cette perspective, cette doctrine chez saint Denis l'Aréopagite. Il se trouve que, qu'on le veuille ou non, l'homme est fait pour aimer Dieu. Et lorsque l'homme aime quelque chose qui n'est pas Dieu, lorsqu'il s'en entiche, lorsqu'il en devient passionné, d'une certaine manière, alors c'est grave parce que c'est mauvais, mais en même temps, c'est la preuve que l'homme est fait pour aimer. Et comme il ne peut pas se contenter des créatures, les créatures ne sont qu'un palliatif, un dérivatif, et même souvent un alibi, pour ne pas aimer Dieu, Dieu que nous devons nécessairement aimer parce que nul ne peut être sans aimer quelque chose. Pourquoi ? Parce qu'il est fait pour aimer Dieu. Donc vous voyez, la venue du Messie est une nécessité absolue pour l'homme. Si Dieu tardait, c'est pour cela qu'il est écrit « Seigneur, ne tardez pas », « Venez Seigneur et ne tardez pas », si Dieu tardait, la nature humaine serait dévorée par sa propre corruption. Vous le savez, saint Thomas dit que le mal est l'absence de bien. Mais c'est une absence phagocytante, si j'ose dire. C'est-à-dire que c'est une absence de bien, mais comme une maladie, comme un cancer, comme une gangrène, est une absence de santé. C'est pas simplement que notre bras, notre pied, que sais-je, va mal. C'est qu'il est progressivement rongé par quelque chose qui, à mesure qu'il le ronge, le fait passer dans la mort. L'homme, marqué par la chute, n'est pas simplement un homme livré à ses propres forces, à ses seules forces naturelles. Lorsque l'homme est livré à ses seules forces naturelles, il est déjà inférieur à ce que Dieu veut pour l'homme. Lorsque vous avez une voiture et que vous la laissez sans l'utiliser à l'humidité, lorsque vous la laissez à elle-même, que vous la laissez tranquille, que vous ne lui faites pas courir le risque d'avoir des accidents parce que vous ne l'utilisez jamais, quand elle est tranquille et que personne ne l'embête, qu'est-ce qu'il arrive? Elle est rongée progressivement par la rouille. Elle tombe en panne alors même qu'on ne l'utilise pas. Pourquoi? Parce qu'une chose créée, livrée à elle-même, commence à dégénérer. L'homme livré à lui-même commence à dégénérer, et c'est à un autre niveau évidemment. Vous voyez, l'homme livré à lui-même est tellement corrompu qu'il s'auto-dévore par sa corruption. La modernité est la preuve même, la preuve éclatante, que l'homme qui vit dans une indépendance absolue de Dieu, indépendance subjective évidemment, mais indépendance réelle pour lui, l'homme qui vit dans une indépendance absolue de Dieu est un monstre qui va de monstruosité en monstruosité, de corruption en corruption. Regardez notre société, et j'enfonce des portes ouvertes évidemment, mais regardez notre société, à chaque fois qu'on fait un pas vers le bas, il n'y a qu'une descente en modernité, à chaque fois qu'on fait un pas vers une plus grande liberté, de plus grands droits, etc., on tombe dans un degré de corruption morale plus grand. D'abord le mariage, pour ceux qui ne peuvent pas avoir accès au mariage, ensuite les enfants, pour ceux qui non seulement n'auraient pas dû être mariés, mais n'auraient même pas dû avoir accès à la garde d'enfants, que sais-je, et ensuite des choses de pire en pire qu'il serait indigne de mentionner du haut de la chaire de vérité un dimanche matin. Donc, vous voyez, mes très chers frères, l'homme livré à lui-même, l'homme sans Dieu, va de corruption en corruption, de monstruosité en monstruosité, et si Dieu tardait, si Dieu n'avait pas envoyé son Fils, l'homme peut-être, d'une certaine manière, pourrait-on dire sous un certain rapport, mais je vais rectifier dans un instant, l'homme peut-être aurait complètement fini par se dévorer lui-même et aurait disparu. Mais il y a quelque chose de paradoxal dans l'homme. C'est que, quoique les ravages du mal, ou c'est-à-dire de la corruption dans l'homme, soient exponentiels, si Dieu tardait, l'homme déchu, fort de son indestructibilité, qu'il doit à l'image de Dieu, à laquelle il a été fait, deviendrait bien pire que le démon. Il deviendrait un démon incarné. C'est pour cela que nous avons dit que on ne peut pas dire, parce que l'homme, dans l'état d'innocence, était le vicaire de Dieu sur terre, le lieutenant de Dieu sur terre, que l'homme est devenu le lieutenant du démon sur terre. Il est devenu un démon. Il est devenu même pire qu'un démon. Après tout, qu'est-ce qu'un démon, si j'ose dire, que Dieu nous garde, mais c'est un ange déchu, qui ne peut, c'est une sorte de chien enragé et galeux qui est tenu par une chaîne et que son maître utilise de temps en temps pour diverses basses œuvres en fonction des besoins. Qu'est-ce que l'homme? C'est une créature faite à l'image de Dieu, qui, s'étant préférée elle-même à Dieu, est tombé dans un état de corruption qui tient du prodige. L'homme aurait disparu, l'homme qui est par nature, par structure ontologique bien, bien inférieure à un ange, l'homme aurait dû logiquement disparaître, mais l'homme ne peut pas disparaître. Pourquoi? Même des savants profanes disent qu'il y a quelque chose de mystérieux dans l'homme, dans le sens où l'homme semble ne être indestructible. Effectivement, l'homme est indestructible. Pourquoi? Parce qu'il ne s'appartient pas. Bien sûr, beaucoup d'hommes, des millions, des milliers d'hommes meurent en fonction de la méchanceté, de la corruption de l'homme, bien entendu. Mais d'une façon générale, l'homme est indestructible. Pourquoi? Parce qu'il appartient à Dieu. Et c'est là une sorte de malédiction qui est en même temps une bénédiction, dans le sens où Dieu, l'ayant privé de la mendication de l'arbre de vie, il l'a aussi rendu mortel. Dans le sens où, heureusement que l'homme peut mourir, imaginez un dictateur, imaginons nous-mêmes, livrés à notre corruption, vivant des centaines et des milliers d'années. Alors quelqu'un qui connaît bien l'écriture dira, mais ça a existé avant le déluge. Vous comprenez donc le déluge, mes très chers frères. Vous comprenez pourquoi Dieu a eu à un moment, en des termes humains, horreur de sa création, et il s'est, nous dit l'Écriture, repenti d'avoir créé l'homme. Parce que l'homme qui vivait presque un millénaire avant le déluge, c'est ce que nous dit l'Écriture, et c'est vrai, l'homme vivait 900, 800, 700 ans dans une corruption exponentielle. Nous qui ne vivons que quelques décennies, 70, 80, 90 ans, nous sommes déjà la proie de notre corruption. Mais alors imaginez un homme d'une certaine manière semblable à nous, même s'il était plus puissant que nous, puisqu'il sortait juste du paradis, imaginez un homme qui aurait vécu 700, 800, 900 ans dans un état de corruption exponentielle. Vous comprenez, ce n'est plus pas très difficile à comprendre, que Dieu ait eu en horreur cette humanité-là, et que, après le déluge, après avoir sauvé 8 personnes, duquel toute la race humaine a été recomposée, puisque nous venons tous, qui que nous soyons, nous venons tous de Noé et de ses 3 fils, l'un ou l'autre de ses 3 fils, eh bien, il se trouve que Dieu a fait la grâce à l'humanité d'abréger sa vie en quelque sorte. Et c'est pour cela qu'il est dit, l'homme ne vivra pas plus de 120 ans. Et la plupart du temps, il vit bien moins. Vous voyez, c'est une sorte de compensation à la corruption et à la grandeur de ce qui est corrompu dans l'homme. C'est la nature humaine faite à l'image de Dieu qui est corrompue. Et si elle jouissait de certains avantages dont elle jouissait avant la chute, dans l'état d'innocence, elle ferait infiniment horreur à Dieu. Et c'est pour avoir en quelque sorte moins horreur de nous que Dieu nous a rendus non seulement mortels, mais finalement très éphémères. L'homme, si Dieu n'avait pas envoyé son Fils, serait devenu bien pire que le démon. Et quand on voit ce dont certains hommes, surtout en modernité, sont capables, on se demande si l'homme n'est pas en train de devenir véritablement un démon, et même de dépasser le démon par sa méchanceté et sa corruption. C'est fort possible, ça se serait déjà vu. Et aujourd'hui, ça se voit. Ce n'est pas quelque chose de nouveau, ce n'est pas quelque chose d'étonnant. C'est quelque chose qu'il faut savoir. L'homme sans Dieu n'est pas simplement un homme neutre. C'est une corruption exponentielle qui, un jour ou l'autre, sera capable de dépasser le démon en corruption et en méchanceté. Voilà le tableau, mes très chers frères, de l'homme depuis la chute. Et spécialement de nos jours en modernité, après en quelque sorte, la deuxième chute qu'a été la Révolution française. C'est pour cela que l'Église nous fait prier avec instance cette prière que nous avons entendue tout à l'heure. Excita quosumus Domine. Réveillez, Seigneur, déployez, Seigneur, nous vous en prions, votre puissance et venez. Déployez votre puissance et venez. Dieu est charité. Il est essentiellement charité, il est essentiellement amour. C'est Saint Jean qui nous le dit. Or, Dieu est acte pur. Alors, sans entrer dans des considérations qui seraient quand même un peu pédantes, il se trouve que Dieu est totalement ce qu'il est. Nous ne sommes pas totalement ce que nous sommes. La plupart du temps, heureusement, parce que nous sommes tellement corrompus que si nous étions totalement aussi corrompus que nous pourrions l'être en une seule fois et tout le temps, ce serait quelque chose, encore une fois, comme nous le disions, qui dépasserait même la corruption et la méchanceté du démon. Dieu est totalement ce qu'il est. Et il est amour. S'il paraît lent et lointain à la créature, ce n'est pas parce qu'il n'est pas à certains moments tout ce qu'il pourrait être, et donc de telle sorte que la créature ne puisse pas le connaître pour ce qu'il est. Lorsque vous avez quelqu'un qui est près de vous, vous pouvez d'une certaine manière faire confiance à cette personne tant que vous n'avez pas découvert tout le potentiel de méchanceté dont cette personne est capable. Heureusement, il se peut que ce potentiel soit totalement annihilé par la grâce, ou il se trouve que malheureusement, vous apprendrez à vos dépens que cette personne à laquelle vous faisiez confiance, eh bien, était en réalité capable d'une corruption extraordinaire. Donc, Dieu n'est pas méconnu de cette façon-là. On ne peut pas s'approcher de Dieu, et Dieu, ce jour-là, n'est pas totalement ce qu'il est, de telle sorte qu'il a des aspects cachés, et on ne peut pas le connaître, donc on découvre certaines choses après coup, ou alors si on n'est pas attentif, on passe à côté du moment où Dieu est quelque chose. Dieu est acte pur. Dieu est totalement, tout le temps, toujours, de toute éternité, charité. Mais pourquoi Dieu paraît-il loin, et lointain, et lent, et lointain à la créature? Eh bien, mes très chers frères, c'est parce qu'elle est dans l'ignorance de l'être de Dieu. C'est par Dieu qu'elle subsiste, puisque si Dieu retirait sa présence d'immensité, la création retournerait dans le néant. Mais la déchéance de l'homme lui fait ignorer sa propre raison d'être. Or, nous l'avons dit, cette ignorance est comme substantielle à l'homme déchu. Comprenez bien, mes très chers frères, nous savons, la théologie nous le dit, l'Écriture nous le dit, nous sommes la propriété inaliénable de Dieu, fait pour glorifier Dieu à tout moment. Et que celui qui n'est pas chrétien ne se dise pas « mais comment cela se peut-il » Il faudra revenir pour l'apprendre. C'est un postulat, c'est une maxime fondamentale. L'homme est fait pour Dieu, il n'est pas fait pour lui-même. C'est un fait. Mais l'homme l'ignore la plupart du temps, ou alors il veut l'ignorer. Mais mettons, l'homme l'ignore. Donc l'homme est dans l'ignorance de sa propre raison d'être. Or, sa propre raison d'être est liée à ce que Dieu est fondamentalement. Donc, nous nous apercevons qu'il y a quelque chose en l'homme qui détourne l'homme de Dieu d'une façon si puissante que l'on peut dire que cette chose est une sorte d'anti-Dieu. Et cette chose s'appelle la concupiscence. Et ne croyez pas que c'est une sorte de discours rhétorique emphatique qui grossit les choses. Qu'est-ce qui fait que nous ne sommes pas saints, nous les chrétiens ? Est-ce que c'est parce que Dieu est trop occupé pour s'occuper de nous ? Non. Est-ce que c'est parce que Dieu est trop faible, la plupart du temps, il ne peut pas... Non. Est-ce que c'est parce que, d'une certaine manière, le démon est si méchant et les hommes sont si terribles que nous n'arrivons pas à être saints si nous étions tranquilles ? C'est bien sûr que non. Nous savons très bien que nous ne devenons saints qu'à mesure où les démons et les méchants s'intéressent à nous, justement, pour nous exciter à la sainteté. Donc, qu'est-ce qui fait que nous ne sommes pas saints ? La seule chose qui fait que nous ne sommes pas totalement unis à Dieu, c'est que nous nous aimons encore nous-mêmes. Et cet amour que le chrétien connaît, il sait, il a un nom, ça s'appelle l'amour-propre ou la concupiscence, cette raison est la seule chose qui empêche que nous soyons unis à Dieu, c'est-à-dire que nous correspondions à notre raison d'être. Il faut donc que la concupiscence soit une sorte d'anti-Dieu, et c'est pour cela que nous comprenons mieux ce que l'Église nous fait prier. Réveillez votre puissance, Seigneur, et venez, employez votre grande force, et mania nobis virtute succurre, et secourez-nous d'une force, venez à notre secours avec une force puissante, avec une force grande, littéralement. Cette grande force que l'Église nous fait invoquer, ce n'est pas que nous demandons que Dieu vienne avec des feux d'artifice pour nous faire plaisir. C'est parce que nous sommes tellement corrompus, nous nous aimons tellement nous-mêmes jusqu'à mépriser Dieu et sa bonté et son être qui est charité, qu'il faut que Dieu excite, c'est-à-dire réveille sa puissance et vienne avec une grande force nous secourir pour vaincre cet ennemi intérieur qui est l'anti-Dieu, c'est-à-dire la concupiscence. Pour briser cet ennemi, il faut que Dieu se révèle à l'homme en tant que celui qui est, ce qui induit que l'homme se reconnaisse comme celui qui n'est pas. C'est une formule qui vient d'une mystique, c'est une formule bien connue. Je suis celui qui est, tu es celui, tu es celle qui n'est pas, dit Dieu à notre âme. Si nous nous croyons quelque chose, dit saint Paul, nous nous abusons nous-mêmes. Si nous croyons que nous avons une existence qui peut être comblée indépendamment de notre raison d'être, ou en contradiction avec notre raison d'être, qui est d'être les serviteurs et les enfants de Dieu, alors nous nous trompons nous-mêmes, et il ne faudra rien moins que la puissance, la forte puissance de Dieu, pour venir nous secourir. Car malheureusement, si Dieu doit nous secourir, il ne nous secourt pas d'une sorte de démon intérieur qui est là et qui loge dans notre cœur sans que nous sachions comment nous en débarrasser. Dieu doit venir détrôner en nous ce qui est le fond même de la vénération et de l'amour que nous nous portons, c'est-à-dire ce qu'on appelle le moi. Le moi, il y a plusieurs aspects du moi, évidemment, mais il se trouve qu'il y a ce moi mauvais, il y a ce moi usurpateur, qui est un anti-Christ à l'intérieur de nous-mêmes. Donc la concupiscence est l'anti-Dieu, et le moi est l'anti-Christ. Et après, vous trouvez que j'exagérais en comparant l'homme à quelque chose de pire que le démon. Qu'est-ce que le démon ? C'est une pauvre créature qui erre en enfer, et qui est déjà largement rétribuée pour ses fautes. Qu'est-ce que l'homme ? C'est celui qui devrait être entièrement pour Dieu, et qui ne veut pas être pour Dieu, parce qu'il sème lui-même. Lorsque nous disons à Dieu « Veni, venez », nous lui disons « Montrez-vous le roi et le maître de vos créatures rebelles, de moi et de tous les hommes. » Puisque nous prions en tant que chrétiens, nous prions pour notre prochain, pour nos prochains, et nous prions pour nous-mêmes aussi. Écoutez ce que dit un auteur. « C'est une chose difficile en général que de convertir un être libre et de changer les cœurs. C'est un travail au-dessus des moyens humains. Il faut de toute nécessité que Dieu y mette la main et déploie les ressources de son pouvoir suprême, de son bras étendu. Ce ne sont pas les hommes qui convertissent, mais lui seul. Personne ne peut dire « je suis venu à la foi catholique parce que j'ai compris certaines choses et je me suis converti ». C'est un abus de langage en réalité, c'est du bon français, mais c'est de la mauvaise théologie quand on dit « je me suis converti ». Alors d'une certaine manière, subjectivement, c'est vrai que c'est par la puissance de notre volonté que nous sommes détournés, bien sûr, mais d'une certaine manière, nous devrions plutôt dire « j'ai été converti ». J'ai été converti par Dieu. J'ai été détourné de la prédominance de la concupiscence en moi qui faisait que je me détournais en quelque sorte naturellement, mais contrairement à ma nature. L'homme qui n'est pas pour Dieu, l'homme qui ne vit pas à chaque instant à la gloire de Dieu, est véritablement dans un état contre nature, si j'ose dire. C'est pour cela que cet état se manifeste particulièrement par les vices contre nature lorsqu'il atteint des sommets très hauts, très élevés. Mais en réalité, la créature humaine déchue est déjà contre nature, puisque sa nature, c'est d'être pour Dieu, et qu'elle est désormais pour elle, pour elle-même. Alors il ne s'agit pas simplement, je mets une toute petite parenthèse ici, il ne s'agit pas simplement de l'égoïsme au sens vulgaire où il y a des gens qui ne pensent qu'à eux-mêmes et d'autres qui sont plus altruistes. Celui qui est altruiste, celui qui aime son prochain parce que ça lui fait sentir bien, celui qui aime son prochain parce qu'il se sent mal et qu'il se sent comme redevable. Vous savez, il y a des gens qui aident les migrants, etc., parce qu'ils ont une telle horreur de la race blanche, ils ont une telle horreur de l'Occident chrétien, ils ont une telle horreur de, que sais-je, de tout ce qui... pas du tout de la République d'ailleurs, hein, mais de tout ce qui fait le propre de la chrétienté, qu'ils se sentent comme obligés d'aider leurs prochains. Est-ce que ces gens-là ne sont pas égoïstes? Au contraire, aider leurs prochains qui vient nous envahir, est véritablement une sorte de thérapie pour eux, pour apprendre, pour faire passer la haine qu'ils ont d'eux-mêmes. Ce sont des égoïstes, en réalité. Et puis il y a toutes sortes de formes d'égoïsme, mais je referme la parenthèse. Donc c'est pour dire que la concupiscence, c'est pas simplement, ou l'amour propre, c'est pas simplement le fait de ne pas être gentil avec son prochain, c'est le fait de ne pas vivre actuellement à la gloire de Dieu, c'est le fait de ne pas, si j'ose dire avec une légère emphase, c'est le fait de ne pas être saint aujourd'hui, maintenant. C'est de l'égoïsme, parce que nous nous réservons à nous-mêmes alors que nous appartenons inaliénablement à Dieu. C'est de l'idolâtrie. Nous nous idolâtrons nous-mêmes. Nous ne voulons faire que ce que nous voulons et nous trouvons un alibi dans le fait que nous disions, une justification dans le fait que nous disions « Oui, mais d'autres font ce qu'ils veulent et ils font le mal. Moi, je fais ce que je veux, mais je fais le bien. » Le mal, c'est ce qui est contraire à la loi de Dieu, c'est le péché, et le bien, qui n'est pas fait pour l'amour de Dieu, c'est une sorte de mal. Et c'est l'équivalent du péché. Et ça aura le salaire du péché. C'est dur, mais ce n'est pas moi qui le dis. Il faut donc, mes très chers frères, que Dieu agisse pour nous secourir avec une grande force, mania virtute. La révélation, la religion, ne sert à rien sinon à endurcir l'homme, si Dieu ne le secourt pas par une grande vertu, par une grande force. Et c'est le mystère de la grâce efficace. Et nous continuons d'explorer l'oraison. Ut per auxilium gratiae tuae, quod nostra peccata prepediunt, in nugentia tuae propitiationis acceleret. Et afin que, ut, per auxilium gratiae tuae, par l'aide de votre grâce. Alors attention, l'aide de la grâce ici n'est pas une aide accessoire, mais l'efficace du déploiement de la grande force de Dieu, qui est son amour à l'œuvre pour notre salut. Donc attention, hein, pas de pélagianisme, de crypto-pélagianisme. Ut per auxilium gratiae tuae. Il ne s'agit pas ici de demander à Dieu un coup de main, il s'agit de demander à Dieu l'efficace de sa grâce. Dieu nous donne des grâces tout le temps, nous en mésusons. S'il ne nous donne pas efficacement sa grâce, nous sommes incapables d'utiliser à bon escient sa grâce. Ut per auxilium gratiae, donc par votre grâce efficace, si j'ose paraphraser, quod nostra peccata prepediunt, ce que, donc ce fameux quod, ce que nostra peccata prepediunt, ce à quoi s'oppose, ce dont nos péchés gênent la marche, l'avènement, indulgentia tuae propitiationis acceleret. Qu'est-ce que ça signifie? Que l'indulgence, c'est-à-dire la bonté de votre propitiation, l'accélère, cette chose. Nous avons dit que la grâce efficace, c'est la grande force de Dieu qui est son amour à l'œuvre pour notre salut. Or cet amour est avant tout l'amour de son Fils. C'est in Christo, dans le Christ, que Dieu nous a aimés avant la création du monde. Alors le quod ici, le quelque chose dont nous parlions, qu'évoque l'oraison, le quod est donc ici la formation du Christ dans les âmes humaines, rachetées à la colère de Dieu et ramenées de leur déchéance par le sacrifice du Christ. Le quod, ici, c'est la réalisation du dessein bienveillant de Dieu sur les hommes. C'est cela qu'entrave, mes très chers frères, nos péchés. Alors écoutez ce que dit un auteur. Peut-être que nous sollicitons depuis longtemps le règne de Dieu et la naissance du Messie dans quelques-uns de ceux qui nous sont chers, et nous sommes étonnés que le Seigneur ne nous ait pas encore accordé cette grâce. Et nous ne voyons pas que c'est notre peu de ferveur, que c'est ce qui manque à notre piété, ce sont nos péchés, en un mot, qui empêchent et retardent ces conversions si désirables. Car la prière du juste est toute puissante. Sanctifions-nous donc pour eux, peccata nostra prepediunt, nos péchés, c'est nos péchés qui empêchent. Si nous étions plus fervents, si nous étions meilleurs, que de bien ne ferions-nous pas? Effectivement, mes très chers frères, nous savons que ce dont il est question ici, c'est l'avènement du Christ dans le cœur, et c'est une grande grâce qui n'est pas donnée à tous. Mais il faut la souhaiter à tous. Et si tous ceux qui doivent la recevoir ne l'ont pas encore reçue, c'est notre faute. C'est parce que nous sommes négligents, c'est parce que nous aimons nous-mêmes. Nous ne désirons pas que notre prochain soit sauvé, puisque nous désirons si peu le salut pour nous-mêmes. Par l'aide de la grâce efficace de Dieu, Dieu se rend propitiable. C'est-à-dire qu'il y a, nous ne développons pas beaucoup ici bien sûr, mais il y a quelque chose de tout à fait merveilleux dans cette notion de propitiation. Dieu se rend propice à ceux auxquels il donne efficacement sa grâce pour le prier contre eux-mêmes. Dieu se laisse toucher pour accélérer l'avènement de son plan salvateur. Le seul obstacle, mes très chers frères, à ce quod, à ce que, eh bien, Dieu, c'est notre concupiscence, c'est l'amour de nous-mêmes. Et Dieu veut réaliser pour l'amour de son Fils, cela, que l'oraison appelle cela, de telle sorte que le seul obstacle étant notre moi, si nous décidons d'aimer Dieu, et c'est déjà l'effet de sa grâce, plus que nous-mêmes, alors nous sommes au bénéfice de cette propitiation dont Dieu fait preuve pour nous, envers nous, cet aspect propice de Dieu vers nous, pour nous, et nous ne recevons pas pour notre châtiment les effets de sa grande puissance, mais nous le recevons pour notre salut. Ce qui s'oppose, encore une fois, au salut, c'est la concupiscence, c'est l'amour de soi, oui, opposé à l'amour de Dieu. Alors mes très chers frères, puisque c'est bientôt Noël, demandons à Dieu ce grand don, ce merveilleux don qu'il puisse nous faire, de nous donner sa grâce d'une façon efficace, et non pas simplement d'une façon générale, mais qu'il nous donne sa grâce d'une façon efficace, afin qu'apprenant à nous haïr nous-mêmes pour l'amour de lui, nous puissions mettre en œuvre la raison d'être de notre être, de notre existence, et, c'est-à-dire vivre la gloire de Dieu, aimer Dieu, et que nous puissions, par cela même, eh bien, amener les âmes qui doivent hériter du salut au salut, puisque vous savez que c'est le propre de la bonté de Dieu que de vouloir que les chrétiens le prient afin qu'il accomplisse son plan. Si nous ne le prions pas, certes, son plan s'accomplira, mais nous serons privés de la récompense. Et cette récompense, c'est le salut. Alors, mes très chers frères, tremblons, tremblons de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force, tremblons en désirant cette... tremblons face à l'horreur, au spectacle horrible de notre concupiscence, et tremblons afin que nous puissions être trouvés dignes de recevoir notre Seigneur Jésus-Christ quand il viendra dans la liturgie, et que dans notre vie, eh bien, le Christ naîtra dans notre cœur pour y balayer cet usurpateur antichristique qu'est le moi, et y régner, de telle sorte que nous soyons tout à lui, et que nous aimions nos frères. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit.
Ainsi soit-il.